la résistance au génocide était vraiment très compliquée. Mais il y a eu des initiatives privées ou des initiatives familiales. En tout cas, des initiatives à grande échelle étaient plutôt rares, comme par exemple ce qui s'est passé dans une région à l'ouest du pays, à Bicécéro, où une grande partie de la population, parce qu'il y avait beaucoup de Tutsis regroupés ensemble, qui se sont organisés pour faire une résistance qui a duré 3 mois. Mais, à part ça, l'initiative était individuelle, personnelle ou familiale, avec beaucoup de risques. Alors, peut-être pour donner quelques exemples de cas de résistance, il y a un militaire. Et c'est vraiment impressionnant parce que le militaire était originaire du Nord. Il était Hutu, s'appelle Nanfura Silas. Il est né en 63 et en 90, il est entré dans l'armée. À cette époque, on savait que l'armée du FPR allait attaquer et ils ont recruté abondamment dans l'armée. Et il est entré dans l'armée étant jeune. Mais quand il est entré dans l'armée, il a su la doctrine et les objectifs de l'armée, c'était de se battre contre l'ennemi. Et l'armée avait défini en 92 qui est l'ennemi. L'ennemi, c'était tout outil, qu'il soit de l'intérieur, qu'il soit de l'extérieur. Celui-là est l'ennemi numéro un. Et l'armée avait identifié son ennemi. Le deuxième ennemi, c'était toute personne qui donne du soutien, n'importe quel soutien. Il peut être moral, il peut être militaire, il peut être de toutes sortes. Celui-là, il est l'ennemi numéro deux. Alors, le militaire le savait très bien. Et pendant le génocide, il était déployé au sud du pays, dans une région où on avait mis les Tutsis depuis longtemps. C'était le Bugesera, la région connue pour être la région des Tutsis. Alors, lui, il avait décidé de sauver les Tutsis qu'il pouvait. Mais à cette époque, il ne connaissait pas beaucoup de Tutsis de la région, si bien que il a sauvé ce qu'il a pu rencontrer. Et il a pu sauver 20 personnes, par exemple. Et lui, la raison de sa résistance au génocide, c'est l'expérience qu'il avait eue comme enfant, quand il était à l'école primaire. Une jeune fille est venue avec son père qui était déplacé, qui était un fonctionnaire, qui avait changé d'emploi et qui était venu tout près de son école. Et la fille est venue dans l'école parce que ses parents s'étaient aussi déplacés pour des raisons professionnelles. Et les élèves de son école, des jeunes de 12 ans, 13 ans, ils ont marmané la jeune fille, ils l'ont violentée, l'ont arraché les cheveux, ils ont tout fait parce que c'était une Tutsi, parce qu'ils n'aimaient plus les Tutsis. Parce qu'ils avaient appris par la propagande génocidaire qui a duré très longtemps que le Tutsi est mauvais par naissance, qu'il est mauvais par nature, et donc ils considéraient comme cette jeune fille comme leur ennemi parce qu'elle la voyait seulement avec les apparences d'un Tutsi comme on a décrit un Tutsi. C'était dans les années 87. Alors, ce monsieur, jeune homme, quand il était à l'école, il a vu ce que les autres enfants ont fait à la jeune fille, il s'est dit, pour sûr, je sais que cette jeune fille n'a rien fait à ses enfants. Elle ne les connaissait même pas. Mais voilà, à cause de l'idéologie, ils l'ont attaqué, l'ont malmené, au point que la jeune fille a quitté l'école. Elle s'est dit, les Tutsis ont un problème. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, c'est parce que le régime en place apprend aux autres de les haïr et de les malmener. Alors, il avait décidé de sauver les Tutsis. Alors, il les a sauvés au hasard de la rencontre. Ce qu'il a pu rencontrer, ils avaient peur parce qu'il était un militaire, en tenue militaire, avec un fusil. À la première rencontre, ils étaient effrayés, mais il les rassurait et il les sauvait jusqu'au Burundi. Lui-même, vers la fin du génocide, ses collègues de l'armée avaient appris qu'il sauvait les Tutsis, ils l'ont menacé de mort et il s'est enfui lui-même au Burundi. Et il a regagné le pays quand le FPR avait vaincu et occupé cette partie du territoire où il était au Bugesera.
Et donc concrètement, il les emmenait en fait, quand il en rencontrait, il les emmenait jusqu'au Burundi.
Jusqu'au Burundi. Il les accompagnait jusqu'au Burundi. Un autre exemple que je peux donner, c'est un exemple d'une famille organisée par un certain Issachar. Issachar était un commerçant et il avait l'habitude de traverser le lac Kivu qui nous sépare du Zaïre à cette époque. Maintenant, c'est la République démocratique du Congo. Et il amenait des vivres du Congo, le haricot, le riz, parce que là, ça coûte moins cher. Il les amenait du côté du Rwanda et il les vendait. Il était un bon commerçant, il pouvait faire des affaires avec ça. Alors, c'était un homme considéré par sa fonction. Il était commerçant, il avait de l'argent. Et généralement, quand on a de l'argent, on peut même être en contact régulier avec les autorités. Alors, quand il a appris qu'il y a une extermination des Tutsis, il est allé voir le bourgmestre. Et le bourgmestre, c'est le responsable de la commune. Dans l'administration du territoire du Rwanda, le pays est divisé en 10 préfectures. Et les préfectures sont subdivisées en communes, les communes sont subdivisées en secteurs, et les secteurs sont subdivisés en villages. À cette époque, le niveau d'organisation des massacres, c'était la commune. Alors le bourgmestre lui a parlé du programme. Ce que nous avons comme mission, c'est d'exterminer tous les Tutsis, sans exception aucune. Même les tout-petits, même les bébés, même les vieillards, même les infirmes. Alors, il a su que cette fois-ci, c'est un génocide final, c'est pas comme les autres. Parce que dans le temps de l'histoire du Rwanda, il y a eu de temps en temps des pogroms contre les Tutsis, des tueries à petite échelle, si bien que même aujourd'hui, certains discutent s'il faut appeler ça un génocide ou pas. Mais en fait, c'est la même idéologie qui était derrière ces massacres. Mais les massacres, c'était à petite échelle. Par exemple, on pouvait tuer les garçons, les mâles, et épargner les femmes. Mais cette fois-ci, on était décidé à tuer tout le monde. Tout le monde. Alors, Issachar a su le programme, et il est venu dans sa famille, parce que sa famille vivait en bon terme avec tout le monde, y compris les Tutsis de sa région. Il s'est dit quand même, ces gens n'ont rien fait de mal, on veut les exterminer, nous allons faire quelque chose comme des humains. Alors, il a organisé sa famille. Lui, il devait tout le temps être avec le bourgmestre pour connaître le programme, pour connaître le plan. Un de ses frères devait être au bistrot du village pour savoir ce que la population pense et savoir ce qu'ils ont fait. Et ce qu'on leur a dit de faire le lendemain. Un troisième devait aller chez les veilleurs de nuit. Parce qu'on avait su, que les Tutsis pouvaient s'échapper par le lac. Alors, on devait veiller, passer les patrouilles au lac. Alors, un des frères devait aller au lac avec les veilleurs, la patrouille, pour savoir quand est-ce qu'il commence les patrouilles, quand est-ce qu'il termine les patrouilles. Et effectivement, les patrouilles se terminaient vers minuit ou 1h du matin. Parce que là, ils étaient fatigués. S'ils n'ont rien vu, ça veut dire que ça va reprendre le lendemain. Cette fois-ci, il n'y a rien. Alors, très vite, ils couraient voir Issachar. Et les Tutsis qui étaient cachés dans leur famille, ils les amenaient au lac. Ils les montaient dans la barque. Et ils allaient de l'autre côté du lac. Au Congo, et il ramenait avant le lever du jour. Ce qui fait que, le lendemain, ils devaient aller cultiver comme les autres, même s'ils étaient très fatigués, pour ne pas donner l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Ils devaient continuer, comme d'ordinaire, la vie de tous les jours. Et comme ça, par ce truc, cette stratagème, ils sont parvenus à sauver plus de 200 personnes. Hein? C'est vraiment un exploit. Mais malheureusement, les autorités communales ont su que Isaacar a fait échapper les Tutsis. Ils l'ont surpris chez lui. Ils l'ont amené à la place publique pour le tuer au vu et au su de tout le monde, de tout le village. Parce que celui-là, c'était un mauvais Hutu, un traître de la cause Hutu.
Et sa famille?
Et sa famille, certains ont été, son frère a été tué, mais les autres, on n'a pas su exactement l'horreur qu'ils jouaient. Ils ont été épargnés. En fait, ce sont eux qui nous ont donné ce témoignage.
Juste une dernière précision. Le militaire dont vous aviez parlé, en premier témoignage, comment s'appelait-il, de façon à garder son nom?
S'appelle Nanfura Silas.
Merci.
Nanfura Silas.